Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé. Le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé. Aujourd'hui, on va consacrer une large partie de cette émission à la sortie du film Jumeaux mais pas trop, tourné dans les Charentes. Vous allez pouvoir aujourd'hui eh bien, écouter les deux réalisateurs qui vont nous rejoindre dans une poignée de secondes, Olivier Ducret et Wilfried Méhans, qui seront rejoints aussitôt par Ahmed Silla et Bertrand Huskla, les deux héros de ce film. En fin d'émission, deuxième coup de cœur ciné cette semaine consacré au film Vacances. Béatrice Destel, Léo Wolfenstein et Géraldine Nakache seront nos invités exceptionnels. C'est le retour vendredi de Tropique Criminel. À cette occasion, le producteur Thierry Sorel et bien sûr notre binôme de flic des Tropiques préférés, Béatrice de Haboulé et Sonia Roland seront nos invités. Et puis on va parler de la nouvelle création TF1, Syndrome E, avec la réalisatrice Laure de Butler, mais également Cool Chen qui sera notre invité exceptionnel également aujourd'hui pour en parler. Vous l'avez compris, et bien on va pas encore s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Tout de suite, voici notre premier coup de cœur ciné.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et notre coup de cœur ciné aujourd'hui qui va sortir dans les salles mercredi, ça s'appelle Jumeaux, mais pas trop. C'est un gros coup de cœur ciné pour nous. On a eu la chance de le voir il y a maintenant quelques mois au Festival de l'Alpe d'Huez. Les réalisateurs sont avec nous parce qu'ils sont deux. C'est Olivier Ducret et Wilfried Méhans. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Alors un film made in Nouvelle-Aquitaine en plus qui a été tourné dans notre belle région du côté de la Charente et Charente-Maritime. J'ai pris une énorme claque, un shoot d'émotion intense parce que vous avez non seulement rire, mais vous avez fait un premier film, mais c'est même plus un galop d'essai, c'est un coup de maître que vous venez de nous faire tous les deux là franchement.
Waouh, bah écoutez, c'est je ne sais pas quoi dire, mais c'est super encourageant. Nous, on espère que juste que ce sera pas le dernier. Donc il faut que les gens aillent le voir. C'est tout l'enjeu quand on fait un premier. Mais merci, merci beaucoup. On va essayer d'être digne de ce coup de maître, comme vous dites, pour les prochains.
On plante un peu le décor de cette fratrie, Wilfried.
En fait, c'est deux jumeaux qui sont séparés à la naissance, parce qu'ils sont accouchés sous X, et ils découvrent l'existence l'un de l'autre 30 ans plus tard. Sauf que un est blanc, l'autre est noir. Ce qui arrive. Il y a une chance sur un million que ça arrive, en vrai. Vous pouvez d'ailleurs taper sur Google si vous voulez aller voir. Si vous tapez jumeaux noir et blanc, vous verrez des vrais jumeaux noir et blanc. C'est parti de cette idée, en fait. C'était un article qui était paru dans un journal. C'est nos producteurs, Antoine et Jérôme, qui étaient tombés sur cet article. Ils nous en ont parlé. Enfin, ils en ont parlé surtout à la base à Olivier et Jean-Paul Batani, qui sont les deux scénaristes originaux sur le projet. Et moi, je les ai rejoints un petit peu plus tard. Et j'ai co-réalisé le film avec Olivier par la suite.
Comment est venue l'idée de départ? Comment j'ai eu cette idée-là, justement, de partir de ce postulat-là et de cette rareté, on va dire, génétique?
Alors, le concept du film, donc l'idée que deux jumeaux puissent être de couleurs différentes, donc, comme l'a dit Wilfried, effectivement, ça vient de nos producteurs, c'est eux qui ont eu l'idée de ce concept. Après, l'histoire, on a essayé de trouver une histoire qui ne se prenne pas les pieds dans le tapis du racisme, en fait, de la question de la couleur. On voulait pas marcher sur les plates-bandes de d'autres genres de films qui ont traité le sujet. Ce qu'on voulait en fait, c'était que montrer que finalement la différence, elle est surtout liée au fait qu'ils ont grandi et évolué dans des milieux radicalement différents, et que évidemment quand ils se rencontrent l'un et l'autre à l'âge de 33 ans, fruit de parcours tellement différents, bah, le choc il est ultra violent et ce choc ne se réduit pas à la couleur de peau. La couleur de peau c'est presque anecdotique. Nous on voulait que le côté blanc et noir soit finalement en arrière-plan. On voulait pas faire de vanne là-dessus.
Ouais c'est ça. On voulait plutôt parler de différences, montrer qu'ils ont évolué dans des milieux complètement différents parce que un était ballotté de foyer jusqu'à être adopté par Paul Girard qui est joué par Jean-Luc Bidot dans le film.
Et c'est le cas donc d'Anthony qui est joué par Ahmed Silla.
C'est ça.
Et Bertrand Huskla qui joue Grégoire.
Oui, et qui lui est le fils de Patrice et Patricia Beaulieu.
Joué par Isabelle Géninas et Gérard Jugnot. Je replace comme ça un peu tout le casting.
Exactement.
J'en profite pour le dire et on entend souvent les réalisateurs dire ça, mais franchement, on a eu une troupe d'acteurs exceptionnelle. Mais oui. On s'est régalé. Enfin, nous, on adore les seconds rôles avec Wilfried. C'est-à-dire qu'on aime bien. On aime les personnages.
Voilà. Et en fait, quand on voit des gens dans des films, que ce soit des tout petits rôles, des deuxièmes, troisièmes rôles, et qu'on les trouve formidables, on les note et on les garde dans un coin de tête pour leur proposer des rôles qui pourraient convenir dans nos projets futurs. Et vraiment, voilà, comme disait Olivier, que ce soit Nicolas Marié, Isabelle Géninas, Gérard Jugnot, même Romain Lancry, Marc Rizzo qui joue
un exceptionnel Marc aussi. Il est incroyable.
Il y en a qui ont pu déjà le voir dans la série Hors de lui.
Je te promets aussi.
Et voilà, et dans la série Je te promets sur TF1. Et vraiment, Marc, il est exceptionnel. Et voilà, il a trois scènes même, mais je pense qu'il marque quand on voit le film. Et nous, on aime ça quand les comédiens viennent, et même des fois jouer deux, trois scènes, et quand les rôles sont tellement forts qu'ils marquent.
Ah oui. Et Claude Perron qui a lu le scénario par l'intermédiaire de Nicolas Marié, parce qu'ils se connaissent très bien et il lui avait fait lire. Nicolas Marié, entre parenthèses, qui est quelqu'un d'extraordinaire, c'est un amour.
Et césarisé, hein, le gars, quand même.
Et il nous a dit oui.
Il nous a dit oui très vite.
Tout césarisé ouais. Qu'il était. Ouais.
Et il sortait du César en plus quand on lui proposait le rôle.
Et c'est Claude Perron, pour l'anecdote, qui nous a appelé et qui nous a demandé de jouer le rôle qu'elle joue, je ne vais pas dire lequel, mais ce qui était hyper touchant pour nous. Et on a dit oui, quoi, Claude Perron, extraordinaire. Juste, j'en profite quand même parce que faut le dire, le film repose sur Bertrand Huskla et Ahmed Silla. C'est pour nous toute la difficulté était d'être sûr que la magie opère entre eux, qu'on y croit en fait, qu'ils sont frères jumeaux, parce que c'est quand même improbable, un blanc, un noir. Et ce qui s'est passé entre eux a été génial. On a fait beaucoup de lectures en amont du tournage et ils se sont tout de suite appréciés, mais c'est même plus que ça.
En fait, le film, c'est vraiment... c'est ça, l'écran, c'est exceptionnel. Hein. Franchement, l'alchimie qu'il y a entre les deux, c'est fou.
Oui, mais parce que, comme disait Olivier, nous, on aime beaucoup faire des lectures en fait en amont, en préparation. Et je pense que le film, c'est vraiment créé là. C'est-à-dire que de leur amitié, de ces lectures qu'on a pu faire ensemble, ils se sont aimés tout de suite. Donc, je pense que ça se ressent dans le film et dans leur interprétation.
Il y a beaucoup de générosité et de respect chez l'un et l'autre. En fait, ils sont très différents. Mais humainement c'est des gens super et donc il y a eu de l'admiration réciproque tout de suite en fait. Exactement. Et ça a été pour nous, ça a été du bonheur quoi. À partir de là c'était gagné quasiment parce que c'était ça qu'il nous fallait vraiment pour démarrer.
Alors, il y a un petit élément déclencheur et une chanteuse qui a un rôle particulier, on n'en dira pas plus parce qu'on va surtout pas spoiler. Mais Natacha Saint-Pierre a quand même un joli rôle dans le film.
Oui, je pense que Natacha Saint-Pierre, voilà, il y a une chanson de Natacha Saint-Pierre dans le film qui, si le film marche, devrait revenir au goût du jour.
Mais il va marcher, j'en suis sûr. Et en plus, il y a une fin ouverte. Évidemment, on dira encore à rien, mais moi, je trouve qu'il y a une fin ouverte qui pourrait appeler vers une suite. Et moi, je vous l'espère vraiment, les gars, parce que si vous nous faites un deuxième film à hauteur de ce premier, vous allez nous apporter vraiment encore vraiment beaucoup de bonheur. Parce que là, on a passé 1h40, incroyable à voir ce film. Moi, je vous conseille, il sort dans les salles mercredi, il est tourné en plus dans notre région, vous avez des acteurs incroyables à l'intérieur du film, Pauline Clément, Nicolas Marié, Marc Rizzo, ils sont tous franchement formidables. Est-ce que vous avez un meilleur souvenir à nous raconter de tournage tous les deux? Déjà, est-ce qu'il y a une scène particulière qui vous a fait marrer?
En fait, il y a deux scènes. Il y a une vraie scène de comédie qui est la plaidoirie de Marc Rizzo qui nous a fait déjà beaucoup rire quand on l'a tourné et on le retrouve ensuite quand on voit la séquence sur le film.
Et un solo qui est très long en plus, ce pauvre. Hein,
qui est très très long.
Mais c'est inspiré de Dupond-Moretti. Ouais, voilà, il a étudié une vraie plaidoirie de Dupond-Moretti. Voilà. C'est-à-dire que c'est un avocat. Marc Rizzo dans le film joue un avocat vraiment minable, mais sur la forme, il s'inspire du plus grand pénaliste français.
L'autre chose qu'on voudrait dire aussi, c'est qu'on a tourné donc en Charente et en Charente-Maritime, on a tourné à Angoulême, et je pense que ça a participé aussi à la bonne humeur et au feel good qui ressort du film, parce que ce soit les équipes locaux qui nous ont accompagnés ou l'atmosphère de la ville de Angoulême, on s'y est vraiment senti très bien. On y est resté 7 semaines et on était comme chez nous. Et je pense que ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire ce qui transpire dans le film, c'est aussi son tournage. Et que ce soit cette équipe comme ses comédiens, mais au-delà même des comédiens, même l'équipe technique était vraiment très heureuse de tourner dans cette région.
On va recevoir le casting dans un instant puisque Bertrand, justement, Pauline Clément et Ahmed Silla vont venir nous rejoindre aussi pour continuer à en parler de ce film. Alors maintenant qu'il va appartenir au public, là, dans une poignée de jours, les gars, vous nous préparez quoi pour la suite? Est-ce que vous avez déjà des projets? Est-ce que vous êtes en écriture? Est-ce que vous êtes déjà en développement? Racontez.
Oui, on est en développement de plusieurs projets qui sont encore... au tout début, donc on peut pas vraiment pitcher ou dire de quoi ça parlait, mais ça restera toujours sur de la comédie avec de l'émotion, parce que c'est ce qu'on aime beaucoup faire avec Olivier, et c'est ce genre de film qu'on a envie de défendre, en fait. Voilà.
Je confirme, on a la chance d'avoir un duo de producteurs qui nous a fait confiance et qui va nous refaire confiance, et puis et d'autres projets encore, donc oui, on est sur les starting blocks pour la suite.
Vous attendez dans notre belle région de Nouvelle-Aquitaine, hein, j'espère, pour le prochain tournage. Merci à tous les deux. On va écouter la bande-annonce Jumeaux mais pas trop. Et tout de suite après, l'équipe des comédiens vient nous rejoindre dans Chut, on écoute la télé. Merci à tous les deux.
Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Faut que je vous raconte le truc de dingue qui m'est arrivé.
C'est quoi cette histoire d'ADN?
Ah, elle a dit qu'en l'état, on savait pas si l'ADN trouvé était le vôtre ou celui de votre frère jumeau.
J'ai pas de frère.
Bah si.
Bah non.
Bah si.
Si j'avais un frère jumeau, je le saurais.
En fait, si, j'en ai un.
Oh, le cauchemar.
Et c'est lui. C'est ce... Enfin, voilà, quoi.
Bonsoir. Il a la politique dans le sang.
Beaulieu, c'est mon frère.
Quand Grégoire l'apprendra, il sera très, très choqué.
Le pauvre, apprendre qu'on a un frère jumeau noir.
Est-ce que ça peut juste attendre la fin de la campagne?
Foutez de ma gueule.
Après, on peut peut-être s'arranger.
Non, ils se foutent pas de ma gueule.
Bertrand Huskla et Ahmed Silla nous rejoignent dans un instant. Alors surtout, bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
On se voit aujourd'hui, je te dis demain. Je sors de mon lit, il est 15h du matin. J'ai raté ma vie et même mon train. À votre avis, est-ce que je vais bien? On dit que la nuit porte conseil. Comment on fait quand il y a le soleil? Je me recouche dès que je me réveille, mais il y a cette voix dans mes oreilles. Allez là, te laisse pas crever comme ça. Donne du travail au karma. Garde la main sur le cœur, même à bout de bras. Allez là, comment te relever si tu tombes pas? Fais de tes failles un combat. Essuie tous tes pleurs, sinon tu te noies. Allez là. Sous vide, je crois que je vais crever. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur de rêver. J'ai mal au bide, à force de penser. Je vis mes souvenirs pour m'en rappeler. Mon propre silence fait du bruit. Pourtant je danse toute la nuit. Je n'ai plus confiance en la vie. Pourtant il y a cette voix qui me crie. Allez là, te laisse pas crever comme ça. Donne du travail au karma. Garde la main sur le cœur, même à bout de bras. Allez là, comment te relever si tu tombes pas? Fais de tes failles un combat. Essuie tous tes pleurs, sinon tu te noies. Allez là, te laisse pas crever comme ça. Donne du travail au karma. Garde la main sur le cœur, même à bout de bras. Allez là, comment te relever si tu tombes pas? Fais de tes failles un combat. Essuie tous tes pleurs, sinon tu te noies. Allez là. Allez là. Allez là. Allez là. Allez là. Allez là.
Les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Voilà. la bande-annonce. On va continuer à parler de jumeaux, mais pas trop. Le film sort mercredi dans les salles. Vous le savez, c'est notre gros coup de cœur aujourd'hui, ciné. Dans notre émission, on va continuer à en parler avec nos jumeaux. Ils nous ont rejoints, Bertrand Huskla. Et bien sûr, il est là. Et on l'aime parce que c'est un habitué de l'émission, Ahmed Silla, maintenant.
Exactement, je suis hyper content de vous retrouver. Déjà, quand hier je suis arrivé et que j'ai croisé votre regard et qu'on s'est juste tenu un petit peu la main en disant « Hey, à demain !» Ça me fait plaisir. Faut être là sur tous les films que je présente à l'Alpe d'Huez.
Oui, et puis ailleurs aussi, on est là. Bertrand, comment ça va? Une première fois dans notre émission. Ravi de t'accueillir aussi.
Exactement, moi c'est une première fois, donc ça va être un peu plus distant, donc enchanté.
Voilà, ça commence très très fort. Alors, on a planté le décor un peu avec les réalisateurs. Il y a beaucoup de testostérone hein, dans cette émission, on est entre hommes hein, un peu. Mais on va voir quand même la touche féminine avec Pauline Clément qui va nous rejoindre aussi dans un instant. Alors même si on a planté le décor, moi j'ai envie de vous demander déjà tous les deux, qu'est-ce qui vous a plu en premier dans ce projet, dans cette histoire de ces deux frères qui se découvrent?
C'est les personnages en fait, comme dans toute comédie. Enfin, moi c'est ce que j'ai adoré en lisant le scénario. Déjà il y avait un pitch qui était hyper fort, donc c'est-à-dire deux jumeaux, un noir, un blanc. La question déjà de se poser, de se dire, la première réflexion que j'ai faite au réalisateur, c'est que c'était faux, que c'était pas possible. Et puis ils m'ont dit si, c'est un fait scientifique avéré, tu peux chercher, ce que j'ai fait sur Google. Après j'ai fermé ma gueule, j'ai lu le scénar d'une traite et j'ai vu les personnages et je me suis dit c'est un vrai terrain de jeu en fait, c'est que c'est brillamment écrit, il y a beaucoup de profondeur, beaucoup de latitude, donc c'est les personnages moi.
Et toi Ahmed?
Un peu pareil hein, franchement l'histoire et les personnages. Et surtout ce que j'ai kiffé, et moi c'est ce que je m'attache à faire dans le choix des films que je fais, parce que j'ai cette chance-là de pouvoir choisir. Et quand on choisit, on a presque pas le droit à l'erreur en fait, parce que c'est vraiment avec le coup de cœur. Et là, le coup de cœur dans cette histoire, c'est la véracité en fait des personnages, l'humanité qui s'en dégage et la véracité de l'histoire. C'est une histoire qu'on peut retrouver dans une famille française, dans une famille dans le monde quoi. C'est des vrais gens. Et c'est ce que j'aime le plus. Je trouve que c'est ce qui marche le plus au cinéma, quand on est vrai.
Et moi, ce que j'aime aussi, c'est quand on est dans une salle de cinéma, on entend tout le monde rire aux éclats, et d'un seul coup, il y a un grand silence. Où là, c'est tout le monde limite pleure, et on est vraiment dans un ascenseur émotionnel, mais plus vrai que jamais. Moi, ça a été vraiment un énorme coup de cœur. J'ai eu la chance de le voir il y a plusieurs semaines maintenant, et je dois vous avouer, les garçons, qu'on a pris une vraie claque. On ne s'ennuie pas un instant. Il y a des moments d'émotion intense, il y a des moments de rire intense aussi. Vous avez dû quand même rigoler sur le tournage aussi, tous les deux, parce qu'on sent une alchimie à l'écran dingue, et j'ai l'impression que vous vous êtes trouvé quand même aussi dans la ville.
Ouais, alors honnêtement, je devrais pas le dire parce que j'ai fait plusieurs tournages, j'ai rencontré plusieurs réalisateurs, plusieurs producteurs, plusieurs partenaires de jeu. Mais en fait, sur ce tournage-là...
Du coup, t'as plein d'amis maintenant.
Ouais, non, pas que. Mais en tout cas, c'est le premier tournage qui se passe aussi bien de bout en bout. C'est le premier tournage où il n'y a pas une heure sup à la fin de chaque journée. Et là, j'étais choqué. Je me suis dit, mais en fait, ça existe. Mais c'est pas parce que on n'avait pas de travail. C'est qu'en fait, on était très carré dans ce qu'on avait à faire et on arrivait à s'amuser. Et l'ambiance de tournage, c'était même trop. Je me suis dit à un moment, mais vas-y, il va y avoir une couille à un moment, c'est pas possible. Et franchement, l'ambiance, le truc, c'était mortel. Vraiment génial.
Bertrand?
C'était... La complicité qu'il y a à l'écran, elle est pas feinte, pour le coup, elle est pas jouée. C'est plus simple parce que je pense que c'est très dur à jouer, la complicité. Ouais. Et je pense que Ahmed et moi, on a pris le parti de pas avoir à la jouer, de se créer une vraie complicité qui a pas été un truc forcé du tout. C'est-à-dire que vraiment, il a fallu simplement quelques lectures et on s'est rendu compte que l'alchimie passait genre de ouf. Pourquoi le tournage s'est aussi bien passé aussi? C'est parce qu'on a pu travailler en amont, se rencontrer en amont, on a beaucoup travaillé sur le texte. Donc en fait, on est arrivé, on connaissait le texte vraiment au rasoir. On arrive avec des nouvelles idées, on en parlait avant, et en fait, il y a une espèce de bonne ambiance qu'on voit sur les prises du film, mais qui reflète vraiment, mais entre les prises aussi. C'est-à-dire que même quand ça tournait pas, et ça n'a jamais été au détriment des prises. Ça n'a jamais été des fous rires qui n'avaient rien à voir avec la scène. Ça n'a jamais été, je rajoute un mot ou je fais un bruit de paix qui, juste pour parasiter le truc. C'était vraiment, dans le respect de l'histoire.
Ouais, là, c'était pas pour chercher le rire. Ouais. C'était vraiment, des fois on rigolait pas, on était entre les prises, chacun sur son téléphone, à côté. Parce que j'ai besoin qu'il soit à côté de moi.
Voilà.
Mais en fait c'était vrai quoi. Je cherchais pas à le faire rire, à essayer de gratter l'amitié ou de gratter le truc. Je lui ai offert un.
C'est naturel.
Je lui ai offert un Bill Bokeh.
C'est vrai.
Je sais pas comment. Ouais, c'est ça, c'est Bill Bokeh.
Kendama.
Je lui ai offert un Kendama.
La communauté des Kendamistes.
Kendama. Voilà. En fait, on était dans une maison. Entre les prises, on galérait un peu. J'ai vu que dans le décor, il y avait un Bill Bokeh. On s'est fait un concours de Bill Bokeh. Je suis rentré chez moi le week-end, j'ai commandé deux Bill Bokeh. des kendama. Et ça a fini en, entre les prisonniers.
C'est qui qui a gagné?
Il était très bon.
Ah. Ouais, je suis forcené parce que je regarde des tutos très vite, moi, sur à peu près tout ce qu'il faut commencer à faire.
Moi, ça m'a fait chier, j'ai cassé la boule.
Monotache obstiné, voilà, je vais apprendre. J'aime bien lire les notices pour apprendre des trucs.
Ouais.
Donc, comment on pourrait définir Grégoire? Ce politicien qui est un peu détesté quand même de ses administrés au départ, mais qu'en fait, on s'attache très vite, au final.
Grégoire Beaulieu, c'est un type qui est très très sûr de lui. Vraiment, qui n'a aucun doute, ce qui est en général la marque des gens un peu fêlés, à de la
limite arrogant même.
Ouais, complètement. Et en fait, cette espèce d'arrogance qu'il porte sans arrêt est une belle marque qui lui manque quelque chose, qu'il ignore totalement. Et c'est extrêmement agréable d'avoir un personnage qui a un parcours aussi clair et beau à jouer. C'est-à-dire que c'est un type qui avance masqué, il le sait pas. Et il a quelque chose qui lui manque, et quand il découvre qu'il lui manque une part de lui, une part d'humanité, il devient quelqu'un d'autre, pas totalement le même, hein, je me suis pas mis à prendre un accent ou je sais pas quoi, c'est que d'un coup, il s'ouvre et il se repositionne sur des objectifs dans la vie, j'imagine comme peut-être quand on commence à avoir un enfant, quand on se découvre un frère, quand on se découvre que quelque chose nous manquait dans la vie, que ce vers quoi on courait était finalement un mirage.
Mais c'est là où il est très fort, il est là où il est très bon comédien, et franchement, je lui promets une grande, grande carrière, parce qu'il a un volume de jeu qui est incroyable, c'est-à-dire qu'au début du film, bah, on l'aime pas trop, on le déteste, et au fur et à mesure, on a envie de lui faire des câlins, on a envie de le prendre dans ses bras, on a envie de lui dire, ça va aller, quoi. Il est bon là-dedans, et vraiment, c'est un vrai kiff. Il a une dimension de jeu incroyable.
Moi, j'aimerais promettre une grande carrière à Ahmed, mais c'est trop tard. Après, j'ai l'impression, d'acheter du bitcoin, maintenant, tu vois.
Elle est nulle.
Non. Ouais, mais bon, moi, j'ai de la chance parce que je grandis, j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai pas fait d'école de théâtre. Donc, quand je rencontre des mecs qui ont fait ce parcours-là, d'apprendre d'avoir un truc un peu plus scolaire, tout ça, bah j'apprends en fait, mine de rien, même si ils ont pas l'impression, mais j'apprends beaucoup. Donc j'ai beaucoup appris à côté de Pauline et de Bertrand.
Justement, Pauline, on va l'accueillir dans un instant. Juste pour terminer, comment toi tu définirais maintenant Anthony?
Bah Anthony, c'est un peu les personnages que je préfère jouer, hein. C'est un peu le grand naïf, un peu kiffant, et c'est un mec plein d'humanité. C'est un mec plein d'humanité qui en fait, on a envie d'être pote avec lui. Et c'est ce que j'aime jouer, moi. J'ai envie que le spectateur se dise, putain, j'ai envie de le rencontrer, ce mec-là. Donc voilà, il est un peu léger, il fait des vannes, il est cool, mais il sait comment prendre sous son bras son frère à un moment donné où son frère a besoin de lui. Il faut qu'il soit présent, et c'était un vrai challenge, ça, de pouvoir jouer le grand frère.
Le film à ne pas manquer, mercredi dans les salles, ça s'appelle Jumeaux, mais pas trop. Vous allez en entendre parler, je vous le dis, parce que moi je lui prédis un grand succès. Je l'espère en tout cas, ce film. On va écouter la suite de la bande-annonce et Pauline Clément nous rejoint juste après. On va mettre une petite touche féminine dans cette spéciale. Merci à tous les deux, merci Bertrand et merci Ahmed.
Merci, à très bientôt.
Merci, au revoir.
J'ai un truc à te dire.
On est frères.
Oh putain.
Je te préviens, si tu me claques la porte au nez, je dors sur le paillasson.
Ah bah bonne nuit alors. Soit je suis ton frère, soit je suis une maladie honteuse. Mais à un moment, faut choisir. Comment ils se sont rencontrés, nos parents?
Un concert.
Ouais, je vois le genre. La musique classique. Knacky.
Knacky.
La pub?
C'était une flûte.
Oh, c'est bio.
Non, c'était une flûte.
C'est quoi ton histoire du jumeau, là?
Écoute, j'ai un frère, jumeau, et c'est Grégoire Beaulieu. C'est une dinguerie.
Il est fatigué, lui.
Si tu continues comme ça, tu vas foncer dans le mur.
Caisse d'angoisse. C'est impressionnant, mais personne n'en meurt. Il a subi un choc émotionnel récemment.
Reste calme.
Je suis très calme.
On va où?
Dans ton cul.
Oh, petit bâtard.
Bah, il a appris qu'il avait un frère jumeau abandonné à la naissance, mais sinon, non, je vois pas.
Mon Dieu, que c'est compliqué.
En tout cas, moi, dans l'histoire, j'ai de la chance, hein.
Pourquoi?
Bah, parce que j'avais une chance sur deux d'être toi.
Voilà, et on continue notre spécial jumeaux, mais pas trop, avec Pauline Clément qui nous a rejoint ce coup-ci. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Et un peu la parole aux femmes quand même, hein, parce qu'on a reçu, il y a beaucoup de testostérone depuis le début de cette spéciale jumeaux, mais pas trop, entre les Réals, Ahmed et Bertrand. Alors Pauline, c'est le rôle de Noémie, c'est un peu la directrice de cabinet quand même de Grégoire, hein.
Ouais, c'est sa conseillère. Du coup, elle le suit et elle apprend avant lui qu'il a un jumeau. Et elle essaye de cacher les choses parce qu'elle a peur que ça bouscule la campagne, qu'on vote pas pour lui, qu'il y ait trop de problèmes, qu'il soit trop déstabilisé. Donc, elle essaye de masquer les choses, jusqu'à ce qu'il le sache, qu'il apprenne.
Comment on pourrait la définir justement, Noémie ? Pauline?
Bah, pendant tout le film, elle est un peu emmerdée parce que elle essaye de cacher le truc et finalement, sans spoiler, il se retrouve à travailler en tant que chauffeur pour Grégoire, le jumeau. Du coup, elle essaye de cacher le truc.
De noyer le poisson.
Ça, ouais, ça, de noyer le poisson. Et finalement, à un moment, je crois qu'elle est contente que ça se sache et elle espère que ça va bien se passer. Mais un petit moment, ça merde et ça finit bien.
Alors, on la sent quand même attachée à Grégoire,
oui.
Noémie.
Oui, elle est attachée à Grégoire, mais elle reste très pro. Et je pense qu'elle n'osera jamais faire le premier pas. Et je pense que c'est deux grands timides, tous les deux très pro, très dans le boulot. Ils se sont rencontrés à Sciences Po, mais après, ils se sont parlé que comme s'ils étaient plus âgés un peu que du travail. Et finalement, grâce aux frères, ils vont s'aimer un peu plus que ça.
Qu'est-ce qui vous a plu dans le projet, justement? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce rôle de Noémie?
Ce qui m'a plu en premier, c'est le scénario. Quand je l'ai lu, je me suis dit, mais attends, c'est possible ou pas? C'est pas possible, ça doit être vraiment un scénario. Et quand je me suis rendu compte que ça pouvait arriver, que ça pouvait exister, j'en revenais pas parce que je savais pas du tout. Et après, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est quand j'ai rencontré les réalisateurs, je les ai trouvés trop cool, et je me suis dit, ah, ça va être détendu, ça va être chouette. Je sentais qu'il y avait un vrai échange, un vrai partage, et aussi le casting avec Ahmed et Bertrand. Eux, ils se sont rencontrés et ils sont tout de suite super bien entendus. Ça a tout de suite fait une fusion.
Ça se sent à l'écran.
Ah ouais, 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 ils sont trop bien entendus, donc ça donnait envie de partir dans l'aventure, et tout le monde était très généreux. Il n'y avait pas de moi j'ai ce rôle là, toi t'as ce rôle là. C'était très. Ouais, c'était très très agréable comme condition de travail.
Un petit souvenir de tournage en Charente. Est-ce que déjà la Charente, ça vous a plu? C'est la première fois que vous y tourniez ou pas?
Non, j'avais tourné à Angoulême aussi, un film qui s'appelait Lola et ses frères, où j'avais tourné l'hiver et j'avais...
Jean-Paul Rouve, si oui, je me souviens bien.
Avec Jean-Paul Rouve. Et j'avais beaucoup aimé Angoulême, j'avais été à Angoulême l'hiver, et là j'ai découvert Angoulême l'été, en plus j'y ai passé beaucoup de temps, et je voulais plus partir. Le week-end, je voulais, j'allais à la piscine municipale où il y a plein de bassins, après je voulais me balader près des remparts, aller au musée de la BD, en fait ça n'en finissait pas. Tous les week-ends, je disais non, je reste, parce que j'ai pas encore fait le musée de la BD, j'ai pas encore fait la chocolaterie qu'on m'a conseillée sur la place, donc voilà, je partais plus quoi, je repartais plus.
On est bien dans notre belle région de Nouvelle-Aquitaine. Bon, merci en tout cas Pauline d'être venue nous parler un petit peu de Noémie. C'est ce qui clôt notre spécial jumeau, mais pas trop par la même occasion. C'est vraiment le film qu'on vous conseille d'aller voir. C'est mercredi dans les salles et en plus tourner dans notre belle région. Et je vous jure, vous n'allez pas vous ennuyer une seule seconde. Merci beaucoup Pauline.
Merci, merci à vous.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre spécial des combattantes, on continue à en parler. Depuis la semaine dernière, vous avez pu découvrir la série. On va continuer à en parler avec le réalisateur Alexandre Laurent qui nous rejoint cette semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Les combattantes, c'est l'événement de cette rentrée sur TF1. Après le bazar de la charité, on avait eu l'occasion de se rencontrer. C'est le nouveau grand challenge, non seulement pour la production, mais aussi en réalisation. Ça n'a pas dû être simple quand même tous les jours.
Non, c'est beaucoup de travail. C'est une série sur laquelle je travaille depuis le début. En fait, j'ai participé au développement avec Cécile et Camille. Et c'est vrai que c'est une série sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps, qui était compliquée à faire et en même temps très plaisante parce que le challenge était énorme. Voilà, qui traite d'un sujet fort d'une partie de l'histoire de France. C'était compliqué, mais après l'avoir fait, c'est une phrase que j'avais dit à Iris. Pendant qu'on était dans le dur, un moment dans le développement, je lui ai dit, ouais, ça nous paraît compliqué, mais tu verras, si on le fait quand on est content, ça nous paraîtra facile. Et aujourd'hui, je retiens que le bonheur et la chance d'avoir fait un projet aussi ambitieux. Pour un réalisateur, c'est un but, un cap, un rêve. Et je suis très heureux d'avoir fait ce projet.
Alors, ce qui m'a marqué, Alexandre, c'est que c'est vrai que vous n'êtes pas avare de défis en réalisation. Je me souviens de l'incendie du bazar de la charité. Là, il y a des scènes avec énormément de figurants, avec des défilés de soldats interminables. Comment arriver à mettre des scènes comme ça? Comment on les anticipe aussi?
Elles se réfléchissent. En même temps, bizarrement, c'est plus facile quand on a plein de monde que quand on a 10 personnes. Il y a moins de tricherie à faire. Vous parliez de figurants, on en a 2 ou 3 fois plus, je crois, sur les combattantes que sur le bazar.
Ça m'étonne pas.
Le bazar, c'était un épisode un petit peu vaste au départ, avec de l'action, et ça partait d'un événement qui durait 20 minutes dans la réalité. L'incendie avait duré 20 minutes, donc nous, on l'avait traité en temps réel. Là, on traite de la guerre 14, et notre histoire se déroule sous 15 jours, et la guerre 14 dure 4 ans. Du coup, pour faire exister l'époque et le contexte, la guerre, les blessés, le couvent, et que ce soit crédible tout du long, on a eu beaucoup, beaucoup de monde. En fait, on se répartit le travail, on va dire que la figuration, je leur parle, mais il y a un poste qui est l'assistant réalisateur, qui s'occupe de placer les gens en fait en fonction du même mouvement de caméra. Et moi, je partitionne ce que j'ai à faire. Je m'occupe des acteurs. Je parle aux figures évidemment précis qui doivent faire un passage à côté d'eux. Je les motive. J'arrête pas de leur dire sur le tournage que c'est ultra important qu'ils soient bien. Parce que s'ils sont bidons, le film le sera aussi en fait. Bah, ça se chorégraphie, ça se met en place. Et je suis pas tout seul, voilà, il y a quatre assistants réels derrière qui font tout le boulot en fait, en ce qui concerne la figure.
Alors, pour s'immerger dans la guerre 14-18, comment on fait? On regarde des reportages, on lit des livres pour être fidèle à l'époque, à tout point de vue?
Tout à fait. Mon premier jour de boulot sur la série, c'était le 1er février 2020. À l'époque, le Covid, c'était en Chine. On a été faire une visite à Meaux, on s'est entouré de deux historiens, François Stébeau et Jean-Pierre Vernet. Tout ce qu'il y a dans le musée de Meaux, ça vient de lui, c'est des choses qu'il a collectées tout au long de sa vie. Et c'est vrai qu'il y a un devoir de mémoire, en fait, quand on s'attaque à un projet pareil. Quand on m'a parlé du projet, je voulais faire un truc un peu décalé, en mode western, me disant qu'une guerre, c'était un lieu de non-droit, un peu comme dans le Grand Ouest. Et je crois qu'en 4 jours, en m'étant replongé dans le sujet, on peut pas rigoler et déconner, il y a eu 18 millions de morts, des gens, des femmes qui se sont battus pour protéger le territoire, et il y a une sorte de devoir de mémoire, donc on a essayé d'être assez réaliste. Je crois qu'on a fait une toute petite entorse ou deux où on prend 3 mois d'avance sur un fait dans la série, qui arrive plus tard, dans l'épisode 6. Mais sinon, on a essayé d'être. C'est-à-dire qu'on a envoyé les scénarios à ces deux conseillers, et qui nous disaient ça c'est pas possible, ça s'est pas passé. Voilà, pour être
plus réaliste, réaliste possible.
Et aussi vis-à-vis de ce pan de l'histoire de France.
C'est vraiment une série qui prend le parti de parler des femmes dans la guerre, de ces portraits de 4 femmes. C'est vraiment été le parti pris. Chose qui a été très très rarement explorée. On parle souvent de la guerre, des soldats, du front, etc. Mais à travers le portrait de ces 4 femmes, ça a quasiment jamais été fait. Ça a été un parti pris dès le départ, je crois, avec Iris.
Tout à fait. Alors l'idée n'est pas de moi. Hein. Moi, j'ai participé au développement, mais c'est Cécile qui a tout inventé, est arrivée avec son histoire. On a parlé à Iris. On l'a développé ensemble. C'était leur envie, leur idée d'aller dans ce point de vue féminin. C'est vrai qu'on parle beaucoup des hommes qui étaient sur le front, mais les femmes pendant 4 ans ont fait tourner l'économie. Et une photo qui m'avait marqué, moi j'ai commencé sur le projet, c'est des femmes qui tirent une charrue mais sans les bœufs. Pour vous expliquer en fait comment elles ont dû s'investir, travailler. Et l'injustice de ce truc, c'est qu'à la fin elles sont pas reconnues dans leur travail parce que les hommes reviennent meurtris de la guerre. Il y a un très joli documentaire de Nathalie Baye sur Netflix sur lequel on s'est beaucoup inspiré. Elle nous raconte qu'avant la guerre 14, elles sont à 2 doigts d'obtenir le droit de vote. Elles font tout ce qu'elles font pendant la guerre, munitionnettes, elles ont repris les boucheries, elles ont repris les banques, enfin, elles se sont occupées du pays, et l'homme revient, meurtri, blessé, pour qu'elles vivent son deuil. Elles retournent derrière leur fourneau, on l'évoque un peu dans la série, avec cette expression, et le droit de vote, elles l'obtiendront, je crois, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Après le bazar de la charité, après les combattantes, alors, du coup, c'est quoi le prochain défi?
Un peu plus tard, voilà, on est en train de réfléchir.
On va attendre un peu.
Non, un peu. On réfléchit à un autre opus, toujours dans l'idée.
Dans la même veine.
Dans la même veine, voilà, avec nos mêmes héroïnes. Un autre moment de l'histoire de France où l'on pense qu'il y a eu une évolution dans les mœurs et dans le droit des femmes en France.
On va suivre ça, Alexandre. On en reparle très vite. Merci, Alexandre Laurent, d'avoir été avec nous. Les combattantes continuent sur TF1, c'est chaque lundi à 21h10, avec deux nouveaux épisodes, en tout cas, que vous pourrez suivre ce soir. Merci beaucoup.
Merci à vous. À très bientôt.
Bon anniversaire, Colin.
Comment vous connaissez mon prénom?
Les combattantes continuent lundi prochain sur TF1.
Je suis tellement désolée. Tu m'as abandonnée comme un chien et t'es désolée.
Pourquoi les camions sont toujours là?
Charles va reprendre la direction de l'usine.
Ne faites pas ça, Eleanor.
Ramenez ces 4 soldats avec les autres. Ils repartent aujourd'hui sur le front.
Ils sont pas aptes à combattre, vous le savez très bien.
Merci Agnès. Vous m'avez redonné foi en la nature humaine.
À couvert!
Pourquoi tu m'as pas écouté?
Il n'y a aucune infirmière qui s'appelle Jeanne Charrier chez nous.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à Syndrome E qui débarque jeudi sur TF1 21h10. Et on a aujourd'hui la réalisatrice qui est avec nous, Laure de Butler. Bonjour Laure.
Bonjour, enchantée.
Merci d'être avec nous. J'avais adoré votre travail sur La Promesse. On avait passé un très bon moment en compagnie de Sophia et Saïdi, en compagnie d'Olivier Marchal. C'était assez incroyable. Et là, vous réitérez un petit peu une belle aventure avec celle de Syndrome E, qui est à mi-chemin entre le thriller psychologique, le paranormal, du fantastique. On a un petit peu tous les ingrédients dans cette série, qui est une adaptation du roman de Franck Thillier.
Absolument, oui. C'est ce qui m'a plu d'ailleurs dans le choix de cette série, c'était de justement retraiter encore l'univers du thriller, qui est un genre que j'adore, du polar, mais de pouvoir s'amuser un petit peu avec un mélange de genres et de pouvoir flirter avec le surnaturel, le fantastique, même si au final tout est très réel. Et donc c'était ça qui était intéressant, c'est de trouver le bon curseur entre justement s'amuser à faire peur, mais en même temps raconter quelque chose de concret. Ned Reel.
La série est assez incroyable. La première chose quand même qui se passe, c'est Jennifer Decker, Lucienne Bell, qui tombe sur une vidéo chez un ami qu'elle va voir parce qu'elle s'inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles. Et elle tombe sur une vidéo d'une petite fille qui date des années 60. Elle se met à pleurer du sang. C'est assez impressionnant comme scène. Et le postulat de départ est un peu placé puisque Franck Charcot va mener l'enquête en compagnie de toute sa brigade.
Absolument, ouais, c'est le postulat de départ, c'est ce premier rendez-vous avec cette proposition de genre, qui est ce film mystérieux qui va déclencher chez Lucie une espèce de réminiscence et qui va venir semer le trouble et chez elle et dans l'enquête.
Et elle va pas être la seule à être troublée par tout ça. Est-ce que Franck a été facile à convaincre pour l'adaptation de ce livre ?
Alors ça, je pense que oui. Après, moi, je n'étais pas là au démarrage. Moi, je suis arrivée vraiment une fois que le scénario était écrit, avait été réadapté par Mathieu Missoff.
Est-ce qu'il vous a été accompagné peut-être donc du coup à la réalisation ? Est-ce qu'il est venu sur le tournage voir un peu ?
Non, moi, j'ai rencontré Franck la première fois. Il est venu sur le tournage au bout de quelques semaines pour rencontrer ses personnages, pour rencontrer Charcot et Lucie. Mais il n'est pas intervenu ni dans la mise en scène, ni dans les choix qu'on a pu faire artistiques. Il est resté très respectueux de tout ce travail-là et il a regardé ça comme un spectateur avec un peu des yeux d'enfant. Il avait l'air très, très content. Enfin, je sais qu'il est très content aujourd'hui, mais moi, la première fois que je l'ai vu, c'était sur le plateau. En revanche, je sais que Mathieu et lui ont collaboré tout au début sur la passation et que Mathieu, même s'il a travaillé et fait une adaptation libre, donc il a travaillé de son côté, il a toujours tenu au courant, Sophie Réville, notre productrice, a toujours envoyé les différentes versions et voilà, et à chaque fois Franck a doublé ça de manière tout à fait humble et respectueuse.
Je m'imagine toujours à la place d'un romancier justement d'écrire des histoires, de sortir le livre et quelques années plus tard de le voir adapté et de voir ses personnages prendre vie justement avec Vincent Elbaz et là Jennifer Decker. Ça doit être quand même un sentiment particulier. Est-ce qu'il l'a livré un peu ce sentiment ou pas ?
Franck est quelqu'un de très très discret, assez timide. Qu'il était venu sur le plateau, il regardait ça vraiment avec. On voyait qu'il y avait beaucoup d'émotions. Je crois qu'il était très ému. Et il nous l'a dit après que c'était très émouvant pour lui de voir l'incarnation de ces personnages. Et comme il en était satisfait en plus, et c'était une crainte aussi. Voilà, c'est toujours un moment un peu fragile pour les acteurs aussi de dire voilà pour nous de dire voilà comment. On a pensé les personnages, alors que lui les vit avec eux depuis 10 ans, des années. Il y avait beaucoup d'émotions sur ce premier jour avec lui.
Les choix de Vincent Elbaz et Jennifer Decker, c'est une évidence.
Alors moi, quand je suis arrivée, Vincent était déjà là sur le projet. Il était déjà conquis. Et pour le rôle de Lucie, on a fait des essais, on a vu pas mal de monde. Et Jennifer est assez vite apparue comme une évidence parce qu'elle avait Jennifer est une actrice extrêmement précise. Technique très à fleur de peau. Et il nous fallait cette précision-là pour jouer ce rôle et pour ne pas tomber dans le ridicule parce que c'est quand même très compliqué de traverser tout ce qu'elle a à traverser. Et elle a à la fois cette fragilité-là, ce côté un peu poétique qui était nécessaire pour contrebalancer la noirceur du personnage. Et Jen, elle peut avoir ce truc-là de quand elle sourit, son visage s'illumine et c'est fou et en même temps, elle est très investie, il y a quelque chose de qui bouillonne en permanence. Et ça, c'était très excitant.
TF1 va sur un terrain pour le coup, là, ils ont rarement été. On pousse le curseur quand même loin, pour du prime time, sur Syndrome E. C'est une satisfaction de voir justement cette prise de risque, cette audace sur TF1 en prime.
Bah absolument, ouais. C'est une grande, grande joie. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai dit oui au projet tout de suite. Ça m'a emballé. Cette audace d'Anne Vio d'accepter, d'adapter, enfin de diffuser un projet comme celui-ci, c'est une audace avec laquelle moi je me suis emparée en me disant bah voilà. Si eux ont l'audace de se dire on peut faire ça sur notre chaîne, bah moi je vais avoir l'audace d'en faire quelque chose qui me plaît et de pousser un petit peu les curseurs. C'est très réjouissant et puis c'est très excitant pour la suite.
Et ben la suite, on va la vivre dans quelques instants avec Cool Chen qui va nous rejoindre. On va écouter la bande-annonce de Syndrome E. C'est jeudi à 21h10 sur TF1. Merci beaucoup Laure d'avoir été avec nous et puis on se dit à bientôt.
Merci à vous. Merci.
Et à très vite.
Merci, au revoir.
J'ai autre chose pour toi. Un homicide.
Ceux qui l'ont tué lui ont volé son savoir.
Regardez qui est sorti de sa caverne. Ça fait 2 fois qu'on la retrouve sur une scène de crime.
Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? J'espère que tu sais ce que tu fais avec elle. On nous a fait quelque chose dans cette clinique.
J'ai aucune intention de remuer tout ça.
Allez, Et on continue notre spécial Syndrome E. La série débarque jeudi sur TF1. Vous l'avez dit à 21h10 avec Laure de Butler, justement, la réalisatrice. On continue à en parler avec Olchen qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je suis hyper flatté de vous avoir parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer ensemble. Je fais partie évidemment de la génération NTM, moi aussi. Et là, c'est l'acteur qu'on va découvrir dans Syndrome E jeudi.
Ben oui, vous allez découvrir ça le jeudi. J'ai eu l'honneur et le bonheur de participer à ce casting. C'est Laure qui est venue me voir la première fois. J'avais déjà lu le scénario et c'est elle qui est venue me contacter en premier pour qu'on parle ensemble de mon rôle. Et de toute façon, en lisant le scénario, je ne connaissais pas très bien le travail de Laure à la base. Je l'ai découvert à travers La Promesse. Donc comme ça a été très prometteur, ça m'a beaucoup plu. Et comme le scénario m'avait plu à la base, ça a été facile d'enquiller, quoi.
Alors, il y a un joli rôle, celui de Virgile, qui va essayer d'épauler, du coup, dans cette enquête au coin un peu paranormal. Il y a un peu de tout dans cette série. Il y a du thriller, il y a du paranormal. On explore beaucoup d'univers à la fois.
C'est à la limite de la science-fiction. C'est une série d'anticipation. Mais c'est quand même très proche du réel. C'est quelque chose qui pourrait se passer. Le syndrome E, c'est une partie qu'on a dans notre cerveau et que des gens essayent de déclencher pour insinuer de la haine chez les gens. Et oui, c'est à la limite de la science-fiction, quoi, on va dire.
Est-ce qu'on pourrait définir justement Virgile ?
C'est très compliqué, mais parce qu'il a pas vraiment de famille, il a pas vraiment d'enfants, donc on sait pas vraiment sa psychologie en dehors de son boulot. Mais bon, qu'est-ce qu'il est ? Il est en gros le bras droit de Charcot, qui est joué par Vincent Elbaz, et qui est quelqu'un qui a des problème plutôt psychologique, un ancien pote à moi, mais on s'est un peu éloigné parce que justement dans sa vie il a eu pas mal de problèmes. Alors on sait pas trop si je suis un peu jaloux parce que je récupère pas l'affaire alors que je pense avoir le potentiel pour le faire. Alors on sait pas si je suis vraiment jaloux ou inquiet parce que je ne sais pas si Charcot sera à la hauteur pour tenir le rôle d'enquêteur et de mener cette enquête à bien, quoi.
Alors on parle de meurtre atroce, hein, pour le coup, dans cette série. Quand on sort d'un tournage comme ça, le soir, on fait comment pour sortir un peu de cette atmosphère? Ou est-ce qu'entre chaque scène, on débraye un peu et on essaye de se lancer quelques vannes?
Non, mais ça dépend. Ça dépend du contexte, quoi. Il y a des fois, on est tellement focus qu'on reste vraiment dans son truc, mais on avait la chance d'avoir une équipe qui s'entendait super bien et qui est plutôt
soudée.
Soudé et surtout de bonne humeur, quoi. Donc effectivement, entre certaines scènes, c'était plutôt la déconnade qui primait, quoi.
Oui, bah, il vaut mieux que ça soit comme ça. La rencontre avec Vincent Elbaz, du coup.
Je l'avais déjà rencontré une première fois, mais pas sur un film. Donc il y a très très longtemps, il y a une quinzaine d'années. Et la rencontre, bah écoute, ça s'est fait très simplement, quoi. C'est quelqu'un qui est très facile. Aujourd'hui, je vais pas te dire qu'on est des potes inséparables, mais bon, on s'est très très bien entendu sur le tournage, ouais, clairement.
Alors ça change de la scène, évidemment. T'en es devant les caméras, est-ce que t'as une petite préférence pour l'un ou pour l'autre ou pas ?
Ouais, c'est deux exercices totalement différents. La scène, c'est il va falloir que tu donnes aux gens tout de suite alors qu'ils sont présents. Ça pourrait être assimilé au théâtre, on va dire. Alors que le cinéma, ça peut plus ressembler au studio, à la façon dont on fabrique un disque. C'est-à-dire qu'on a le droit à plusieurs prises, on peut refaire. Alors que le live, c'est vraiment en direct avec les gens, quoi. Donc avec la scène, c'est très très différent. Ça peut plus s'apparenter à la fabrication d'un disque, la fabrication d'un film, je dirais.
Alors la musique, justement. Est-ce qu'il y a un nouvel album en préparation, pour ta part, en solo, notamment ?
Non, avec NTM, déjà, on a dit que c'était la DER, en 2019, quand on a fait la dernière tournée. Et en solo, non, moi j'ai mis ça de côté depuis un moment, quoi. J'écris plus trop.
Préfère consacrer au métier d'acteur ?
Métier d'acteur, et puis je suis aussi joueur de poker semi-professionnel, donc c'est mon activité quasi principale. Mais oui, je à chaque fois qu'on me propose des trucs, c'est avec plaisir que j'y participe.
Bon, en tout cas, merci Cool d'avoir été avec nous. On te retrouve jeudi à 21h10, Syndrome E, pour découvrir cette aventure. Et merci à Laure également qui était avec nous il y a quelques minutes. On continuera à parler de Syndrome E également avec Bérangère Krief. Merci infiniment d'avoir été avec nous.
Merci.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé, eh bien, c'est pour la saison 3 de Tropic Criminel qui débarque vendredi sur vos écrans sur France 2. On l'attendait avec impatience et pour la première fois, eh bien oui, là on a cette chance-là. Nous avons nos deux stars en même temps. Oui, Sonia Roland et Béatrice de la Boulay sont avec nous toutes les deux. Bonjour.
Bonjour.
On va avoir en plus le producteur Thierry Sorel qui va venir nous rejoindre d'ici quelques instants. Les filles, on se régale. On se régale de beaux paysages, on se régale de belles enquêtes avec vos histoires amoureuses aussi, toutes les deux. Rocambolesque, je crois qu'on peut le dire. Vous vous amusez toujours autant.
Oui, on a développé plus qu'une complicité, vraiment. C'est une sororité évidente et qui, se voit vraiment dans notre jeu, dans nos personnages. Et ça marche très bien.
Ouais, et puis on s'amuse même de plus en plus parce qu'on a moins de pression. Maintenant, on maîtrise bien nos persos. Donc maintenant, il y a beaucoup plus d'éclate, quoi. On est plus détendu et je pense que ça nous donne plus de jeu.
On sent la chimie de plus en plus forte, justement, entre vous deux. C'était très à couteau tiré, quand même, au départ, ça partait mal, hein.
Bah, ça partait mal, mais c'est pour ça aussi que ça évolue super bien. Et puis que le public s'attache de plus en plus aux personnages. C'est qu'aussi Mélissa commence, les deux personnages commencent à déteindre l'un sur l'autre et c'est vachement bien parce que du coup on sait plus trop qui fait quoi, qui, comment, mais bon, Crivelli restera Crivelli.
Oh oui!
À mon avis, on va finir en couple. C'est... Ouais.
Il y a une tentative quand même dans la saison 3.
Et une petite tentative, on vous laisse le suspense.
En tout cas, dans les épisodes qu'on va découvrir vendredi. Alors qu'on pensait peut-être Crivelli casé et peut-être marié, le mariage ne va pas se passer tout à fait comme prévu, ma chère Béatrice.
Vous m'avez l'air bien informée. Crivelli, elle aime bien les expériences, donc se marier fait partie des expériences qu'elle a tentées. Bon, voilà, après, toute expérience a une fin. Mais elle est évidemment assez instable. Je pense que Crivelli ne sait pas encore très bien ce qu'elle veut. On lui pardonne.
On a cru, hein, pourtant, on y croit. En tout cas, la robe de mariée te va très bien, Béatrice. Ah,
merci beaucoup. Un peu de féminité pour Crivelli, ça fait du bien aussi. Parce qu'on n'a pas le droit d'enquêter en short, on n'a pas le droit d'enquêter en jupe.
Mais on a le droit d'enquêter en robe.
On a le droit d'enquêter en robe de mariée, donc voilà.
Alors, il va y avoir des beaux guests, évidemment, qui vont vous accompagner pendant toute cette saison. On va en découvrir déjà dès les deux premiers épisodes. On retrouve toute l'équipe aussi, avec Antoinette Giré, qu'on avait eu l'année dernière aussi, qui est géniale dans le rôle de ta fille.
Oui, elle est formidable et elle évolue super bien durant la saison. En fait, tous les personnages comme ça, qui paraissaient secondaires, ont une telle présence dans la série que, enfin, tout le monde s'y attache, nous aussi, oui. Et même dans la vie, parce que c'est devenu nos enfants.
Quand ils arrivent en Martinique, on dit « Ah, les enfants sont là !»
Oui, c'est ça.
Comme si c'était vraiment nos enfants. Donc on leur prépare des petits dîners, voilà. Ils viennent à la maison.
Ils sortent de nos enfants, ils vont faire la fête avec nos enfants. Non, mais c'est génial. C'est génial.
Parce que, il faut quand même le dire, c'est que vous partez là-bas, vous tournez tout d'un coup. Donc vous restez là-bas, y compris des week-ends, etc. Donc ça crée des liens évidemment très forts entre vous. Là, vous rentrez pas le week-end chez vous, vous êtes vraiment en vase clos, quoi.
Ouais, mais ça crée une vie en fait. Mine de rien, on a passé plus d'un an là-bas puisque on a fait quand même 3 saisons. Tout mis bout à bout, ça fait plus d'un an, un an et demi. Mais on a nos habitudes. Je pense qu'on connaît très très bien l'île et peut-être plus que certains Martiniquais qui nous le font savoir d'ailleurs, parce que on est très curieuse de ce qui se passe autour de nous. Béa, alors elle, c'est une aventurière. Elle va. Enfin, je pense qu'elle connaît tellement l'île que c'est devenu un guide à elle toute seule.
Les champs d'ananas et la montagne pelée n'ont plus de secret pour elle.
J'ai pas encore tout découvert parce que c'est ça qui est formidable avec la Martinique, c'est que plus on la connaît, plus il y a à découvrir. C'est-à-dire que vraiment, elle a des secrets bien gardés. Rien n'est tellement indiqué en fait. Donc faut aller creuser. Les endroits connus, ils le sont, mais il y a plein d'endroits encore inconnus à explorer. Et ça, c'est vachement sympa. C'est vraiment une terre d'aventure.
Le cadre de ces deux premiers épisodes va notamment se dérouler sur l'île des Chevaliers, qui est absolument magnifique. Pour les fans de Demain nous appartient, vous allez avoir une petite surprise. Vous allez découvrir un Hector Langevin avec des tatouages un petit peu partout, hein, quand même.
Sexy.
Oui, il est super. Il joue un personnage assez instable psychologiquement et il est très touchant. Il nous a bien épaté.
Et je pense qu'il avait vraiment envie de ce rôle, qui le sort un peu de ce qu'il fait ailleurs, mais il était vraiment très... il est très étonnant, hein, cet acteur.
Pour l'anecdote, il est arrivé... donc on habite au Pierre et Vacances, hein, en Martinique, et c'était confiné, donc on avait le Pierre et Vacances pour nous. Ouais. Tu te souviens, il n'y avait pas de clients. Et du coup, on avait demandé si on pouvait organiser une pool party pour l'anniversaire du nounou de ma fille. Et du coup, il y avait une grosse fête quand il est arrivé.
Oui,
et vraiment, il est arrivé, il s'est mis direct en maillot de bain, il a pris une bière, il parlait à tout le monde, il disait « Ouais, sympa ce tournage !» croyais que c'était comme ça tous les jours.
Il nous a fait un petit mix, non?
Oui, c'est vrai qu'il mixe et il rappe aussi. Il nous a fait un petit rap à la maison. Il est très sympa,
il
Hector.
Il sortait de l'avion, donc il a découvert une ambiance qu'il n'avait visiblement pas l'habitude de voir. Ouais. C'était les bronzés.
Quels sont les guests qu'on va retrouver pendant cette troisième saison? Qui c'est qu'on va voir autour de vous?
Alors, vas-y, on en dit un chacun. Édouard Montout.
Jimmy Jean-Louis.
Sarah Mortensen.
Ah, oh, c'est trop facile! Ah oui, Francis Perrin, évidemment!
Dès le premier épisode, d'ailleurs.
Armel Deutsch.
Yes.
Jean-Louis Garçon.
Franck Monsigny.
Et puis Stanny Copette, aussi.
Oui, qui est venu de Guyane, qui n'est pas venu de très loin, du coup.
Arié Elmaleh, qui revient.
Donc Arié revient dans cette saison 3.
Oui. Arié est là pour le meilleur et pour le pire.
Sans doute.
Et revient pas voir ses enfants.
Oui, il vient évidemment revoir Crivelli.
Ah oui, même pas Mélissa, quoi.
Ouais, ça agace énormément Mélissa. Mais en même temps, c'est de bonne guerre.
Son Mélissa, elle a mieux à se mettre sous la dent, hein.
Oui, et Mélissa a de quoi s'occuper cette année.
Ça va être le grand amour pour Mélissa.
Dans le jeunisme. Elle papillonne.
On va dire qu'elle apprend à aimer les pizzas. Voilà. On va dire ça comme ça. Vous avez vu, j'ai regardé.
Pas que les pizzas. Elle a plusieurs cordes à son arc cette année.
Oui, enfin, bien poussée par Crivelli. Une rencontre totalement improbable va se faire avec un certain gendarme joué par Stanny Copette, justement.
Bon, bref, il y a beaucoup de belles choses qui vont se passer, du coup. On va écouter la bande-annonce, on va revenir dans un instant, parce que franchement, c'est le bonheur de vous avoir toutes les deux en même temps. Et puis, on va avoir également Thierry Sorel qui va nous rejoindre un peu pour la partie prod. On revient tout de suite, on écoute.
Vendredi prochain, tout le monde est à la noce pour le retour de Tropic Criminel.
Article 213. Les épouses...
Excusez-moi deux secondes, qu'est-ce qui se passe, il y a un problème?
Profitez de la première occasion pour fuir votre mariage, je vous croyais plus courageuse quand même.
Commandante Saint-Rose, capitaine Crivelli, c'est quoi votre nom?
C'est une blague? C'est pas tous les jours que je rencontre une policière aussi canon.
C'est vous ça? C'est quoi, ça va me coûter de faire repeindre ce mur?
Pour l'image de la police, c'est mieux que ce soit son visage que le vôtre.
Le duo de choc se reforme pour une nouvelle saison inédite. Tropic Criminel avec Sonia Roland et Béatrice Delaboulaye. Vendredi prochain à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Ces épisodes sont disponibles en avant-première sur Salto.
Allez, de retour dans Chez ton écoute à télé pour notre spécial Tropic Criminel. La série revient vendredi sur France 2. Béatrice Delaboulaye et Sonia Roland sont avec nous. Les filles, on va évoquer un peu vos souvenirs de tournage. Est-ce qu'il y a eu des fous rires incontrôlés ou incontrôlables?
En fait, il y avait un assistant, mais toi, tu racontes mieux.
Il y avait trop de lumière à un endroit et du coup, il fallait de l'ombre. Et on a demandé à un assistant de faire, enfin, la mise en scène a demandé à un assistant de faire la branche humaine.
Voilà.
Mais il fallait qu'il bouge.
Donc il avait des
indications d'arbres.
Il était dans notre champ, on dirait.
Il était hors champ, mais il avait quand même des indications de jeu. Il dit non, plus subtil là. Et donc voilà, donc nous on a pleuré de rire parce qu'on était dans le champ, mais pour le coup.
Et du coup, c'est Denis qui l'a fait, souviens-toi. Denis Thibault, le réalisateur, s'est mis à le faire, c'était pire. Voilà, on n'a pas pu, on s'est mis par terre, j'avais mal aux abdos.
Quelquefois, la chaleur peut rendre fou aussi, donc on a des fous rires de la chaleur.
C'est vrai qu'il y a des moments où il fait très très chaud, surtout que la saison 2, vous l'avez tourné avec un peu de retard en pleine saison humide. Ouais. Ça n'a pas été triste, je crois. Hein. Parce qu'on voyait qu'il pleuvait bien de temps en temps quand même. Hein.
Il pleuvait bien et puis non mais c'est vrai que c'est dur à gérer, surtout pour l'équipe habillage, maquillage, coiffure,
ouais,
qui doit à la fois être avec un sèche-cheveux pour nous sécher les aisselles parce que quand on transpire comme des voilà, et puis à 60% d'humidité, donc
les réalisateurs ont des petits hôtels dans leur chambre pour avec des bougies, de l'encens, et ils font des incantations un peu tous les matins pour espérer du beau temps.
Au dieu soleil. Il demande que le soleil soit là.
Parce que c'est vrai que s'il y a tempête tropicale, il n'y a pas de tournage. Il y a arrêtage de tournage.
Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est tributaire énormément de la météo. Thierry Sorel, le producteur, qui nous rejoint aussi également. Comment ça va, Thierry?
Ça va bien.
Merci de nous offrir ce beau voyage à partir de vendredi pour cette troisième saison inédite. Ça cartonne. Franchement, côté producteur, on doit être content quand même.
Ah bah oui, on est plus que content, on est ravis, c'est notre rayon de soleil à nous. Elles sont formidables parce que le rayon de soleil, on dit c'est le soleil de la Martinique, mais non, le rayon de soleil c'est elle.
Ah, c'est mignon, que répondre là-dessus?
Bah en fait, il veut qu'on se tienne bien pour le tournage de la quatrième saison, c'est pour ça.
Oui, il y a beaucoup de sous-textes, il y a arrêter de faire la fête, Il y a tenez-vous bien,
discipliné.
Voilà. Ou alors il y a des choses à se faire pardonner, par exemple te faire tourner en robe de mariée pendant 15 jours.
Ah non, ça c'est la faute des auteurs. Et puis l'imagination est sans limite. Hein. On sait qu'on peut leur faire faire à peu près tout ce qu'on veut, donc on va y aller. On va pas se gêner.
Puis là, ce qui est bien, c'est pas comme en plein mois de janvier en France quand on leur dit de se jeter à l'eau, ils y vont de bon cœur. Là.
Oui, ça va, on peut y aller quand même dans l'eau. C'est pas ça, non, voilà.
C'est vrai qu'on est très demandeuse d'action, de choses à tourner un peu marrantes et atypiques. Oui. Que de tourner dans un bureau, c'est moins drôle.
C'est clair. Non, on adore l'action et on adore aussi la comédie. Et c'est vrai qu'on va en avoir beaucoup plus en quatrième saison, ouais. Avec des choses complètement inattendues, même venant de Mélissa.
Il n'y aura plus d'enquête.
Non, je pense. Plus
et Thierry, justement, les auteurs ont inséré beaucoup plus de comédies encore dans cette saison-là. Ça monte crescendo. C'est vraiment une volonté aussi de la production.
Bah, c'est une volonté de tout le monde. Le public s'y retrouve. Nous, on s'amuse. Les scénaristes, ils n'hésitent pas. Ils y vont. On voit que les filles répondent. Donc elles en demandent, on y va.
Et puis elles sont pas les dernières à dire oui là-dessus, je pense. Hein.
Ah non, mais nous on assume pleinement nos personnages. Hein.
Ouais. On est ravis.
Et toutes les aspérités du personnage.
Vous voyez longtemps dans vos rôles, les filles?
Ah bah autant que.
Ouais, jusqu'à l'EHPAD.
Oui. D'ailleurs, on avait fait une version mamie toutes les deux en mode
si on allait enquêter.
Allons-y.
Il est où Phil encore.
Bon, quel est le plus bel endroit dans lequel vous avez tourné, qui vous a le plus marqué, le plus enchanté de la Martinique?
La maison hantée.
La maison hantée, ouais, elle était assez.
Elle était pas enchantée, mais on a tourné dans une maison hantée. Voilà, on n'en dit pas plus parce que rien que c'est le décor d'un des épisodes et c'est un endroit absolument dingue, abandonné, une ancienne maison très très majestueuse mais totalement, il y a un petit côté Cuba du coup, c'est très impressionnant et on avait la compagnie de à peu près 3700 chauves-souris peut-être.
Et quelques esprits aussi.
Et quelques esprits, ouais. Non, c'était fou. Hein, ouais. Il n'y a que en Martinique qu'il y a des endroits comme ça.
Ouais. Ça amène un peu de tension sur l'enquête. Thierry, prêt pour la saison 4?
Moi, oui, très, 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 très prêt. C'est demoiselle qu'il faut.
Elles sont prêtes aussi.
Tout le monde est prêt, là. L'énergie est là, les personnages sont là, les textes sont presque là. Le réalisateur est là, le premier, la deuxième réalisatrice, elle est là. Non, là tout est paré. Ouais,
vous savez pas, les deux premiers épisodes de la saison 3, eux aussi, ils sont là. Et c'est vendredi, et c'est à 21h10 sur France 2. Pour les deux premiers épisodes, juste après un si grand soleil, eh bien, le soleil continue avec Tropique Criminel. Une belle soirée en perspective. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci.
Et à bientôt. Tout de suite, un autre petit extrait ring pour vous.
Je suis très heureuse de vous recevoir ici. Article 213. Les épouses...
Excusez-moi deux secondes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème?
Profitez de la première occasion pour fuir votre mariage. Je vous croyais plus courageuse quand même.
Commandante Saint-Rose, capitaine Crivelli. C'est quoi votre nom?
C'est une blague.
Tropique Criminel, nouvelle saison inédite, vendredi soir à 21h10 sur France 2.
Et dans un instant pour la dernière partie de Chute, on écoute la télé, Léo Wolfenstein, Béatrice Destel et Géraldine Nakache nous rejoignent, on parle du film Vacances. A tout de suite.
Bouge pas, Chute, on écoute la télé revient dans un instant. A tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé.
Tout n'est pas clair.
Comme cet amour est haut, oh, ah, comme cet amour.
rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, on va parler du film Vacances qui sort au cinéma. Un premier rendez-vous pour les co-réalisateurs, Béatrice Seba de Staël qui est avec nous. Bonjour Béatrice.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, Léo Wolfenstein. J'ai pas écorché ton nom, Léo.
C'est bon, merci beaucoup.
C'est bonjour. Parfait. Et puis une chouchoute de l'émission, on aime tellement l'avoir avec nous régulièrement pour tous ces films. C'est Géraldine Nakache qui est là avec nous, qui joue le rôle principal, qui joue le rôle de Marie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Alain, je suis très contente de vous voir.
Eh ben écoute, nous aussi, on est très heureux de te voir. Et surtout en plus Géraldine, là on est vraiment sur un rôle complètement différent de ce qu'on propose d'habitude. Parce que malgré ce que le titre pourrait faire penser, ces vacances n'en sont pas vraiment. Enfin voilà, c'est l'histoire d'une maman qui part en vacances avec ses enfants, qui est délaissée par son mari. C'est la première fois qu'elle part toute seule à la campagne et va tomber sous le charme de la personne qu'il faudrait pas. Et tout va évidemment se transformer un peu en cauchemar, ces vacances. J'aime beaucoup la photographie, l'ambiance, aussi les couleurs de l'image. Je suppose que c'est quelque chose qui était voulu un peu par vous deux, Béatrice Léo.
Oui, oui, bien sûr, complètement travaillé, complètement voulu. C'était extrêmement important, et le paysage et l'image, quoi.
Mais quelle bonne idée d'avoir transposé cette histoire dans une belle région de Nouvelle-Aquitaine, hein, il me semble.
Oui, alors je sais que c'était un film qui était supposé se tourner ailleurs, mais au final, la Nouvelle-Aquitaine était tellement magnifique que c'était l'occasion ou jamais de filmer ces beaux paysages qui sont aussi un peu le personnage du film d'une certaine manière, parce que ça représente un peu les états d'esprit de notre personnage.
Qu'est-ce qui t'a séduit en premier, Géraldine, justement dans le rôle de Marie, quand t'as lu le scénario ?
Ce qui m'a séduit, c'est la complexité de cette femme, parce que j'ai l'impression que un être humain, c'est complexe par nature, et d'essayer d'accompagner Marie, d'essayer de la faire respirer à nouveau. C'est une femme qui ne respire plus, qui est un peu en apnée au début du film, et qui va être obligée de trouver de l'aide.
Qui s'accroche à son mari, qui s'accroche en essayant de l'appeler régulièrement, qui essaye de... Voilà, et c'est justement ce moment de faiblesse que va profiter cet intrus, hein, on va dire. Béatrice, comment est venue l'idée de cette histoire ?
L'idée, c'est de raconter l'histoire d'une femme qui n'a pas confiance en elle, qui est assez délaissée par son mari et qui est une femme au foyer, en fait. Et je voulais imaginer ce qui aurait pu lui arriver si elle s'était laissée aller. Alors... C'est un peu pessimiste mon truc, mais bon, ça...
Non, c'est pas si pessimiste, c'est pas vrai. C'est parce que Béatrice, elle m'a dit quelque chose la première fois qu'elle m'a parlé du film. Elle m'a dit, tu sais, cette femme, elle ne sait pas nager. Et pour autant, à la fin du film, elle va flotter. Et je pense que ça, c'est plutôt optimiste, justement. De se dire que on croit qu'on sait pas, et en fait, on a la ressource pour avancer. On a une forme de résilience, et que dans cette résilience, on trouve une issue, et on trouve souvent, parfois, la lumière. C'est le cas de Marie, en fait.
En fait, c'est une femme qui est dépendante et qui finit par trouver la liberté.
Sur l'indépendance, finalement.
Exactement.
C'est ça qui est chouette. Et c'est vrai que c'est une belle image. Alors, sans dévoiler, évidemment, hein, quoi que ce soit, sur la fin du film, c'est vrai que l'image est belle, cette image de flottaison. Alors qu'à un moment donné, elle manque de se noyer, justement, au milieu du film Marie. On sent une libération, en fait, en quelque sorte.
Et je pense que c'est ce sujet-là aussi qui m'a beaucoup parlé. Il y a plusieurs sujets dans le film, hein, mais quand Béatrice et Léo sont venus me chercher et que j'ai lu le scénario, je me suis dit, ça m'intéresse de raconter ces femmes qui se débattent comme ça au milieu d'un tas de sujets, quoi. La charge mentale, la culpabilité. Comment on fait avec tout ça aujourd'hui quand on est une femme quarantenaire, qu'on a des enfants? On doit travailler, arrêter de travailler, s'occuper des enfants, pas s'en occuper, bien, mal, qui décide, qui juge, comment on fait, à quel moment on souffle, quoi.
Il est incroyable celui qui joue le rôle justement de cet homme qui essaye de te faire chavirer le cœur. Il est dingue parce qu'on dirait un ange. Et puis il se transforme petit à petit en démon, ce comédien. Il est juste dingue pour le coup.
Hein. Ah oui, à lui, je l'ai beaucoup cherché, hein, pendant des années et j'ai eu le coup de foudre immédiat.
Et Léo, d'Andranik Manet.
Et Léo a été convaincu comme moi. On a été vraiment, on n'a pas voulu céder à quoi que ce soit d'autre. Une fois qu'on l'a vu, c'était le personnage. C'est vrai qu'il est très doux. C'est un Russe et il a ce côté excessif en fait, qui est le personnage.
Quand on co-réalise, comment se répartissent les tâches, Léo?
C'est une bonne question. En fait, moi, je pense que c'est plutôt une sorte de soutien que j'ai donné à Béatrice, qui est vraiment la réalisatrice du film sur tous les aspects. Moi, j'ai vraiment pu l'aider à peut-être aller un peu plus vite. On n'avait pas beaucoup de temps pour faire ce film, donc pour prendre des décisions un peu plus rapidement. Elle était évidemment avec les acteurs à 1000%. Et moi, mon rôle, ça a été surtout d'essayer d'être un peu un couteau suisse sur certains aspects techniques, même un petit peu d'aider à reformuler parfois le scénario au début de notre processus de co-réalisation. Mais je pense que c'est assez clair que moi c'était vraiment l'idée d'aider Béatrice à réaliser sa vision.
À essayer de gagner un peu du temps, parce qu'on sait que quand c'est un premier rendez-vous, c'est jamais facile forcément à monter. On connaît aujourd'hui les difficultés du cinéma français, et il est vrai qu'il faut toujours aller plus vite. On tourne maintenant des films quasiment à la même vitesse qu'un téléfilm pour la télévision, et il faut aller vite, quoi.
Et puis moi, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi. C'est très bizarre, quoi. Donc je pense que sans Léo, j'aurais pas pu réaliser ce film.
Ouais, c'était bien d'avoir son regard en même temps permanent.
Son soutien, ouais. Son soutien.
Géraldine, alors maintenant qu'on a eu un peu leur regard de réalisateur, toi, c'est quoi ton regard en tant qu'actrice sur ces deux-là?
Eh ben, ces deux-là, ils sont bien complémentaires, parce que il fallait, comme tu le disais à juste titre, il fallait le rentrer, ce film, en 6 semaines, dans les Landes, au mois de novembre, avec des scènes où je tombe à l'eau, notamment des scènes un petit peu chorégraphiées. Je vais pas spoiler le film, mais voilà, il y avait du travail, et on n'a pas peur du travail de manière générale, donc là on en avait encore moins peur, on voulait le faire, ce film. Donc du coup ils ont tenu le plateau de main de maître, parce qu'ils avaient tout, les intempéries, les enfants, parce que je tourne avec beaucoup d'enfants, et les enfants c'est compliqué, les animaux morts, on avait tout, le froid, et c'est mon sujet à moi, le froid, parce que je suis un peu tout terrain, mais je suis frileuse. Donc tomber dans l'eau le 12 novembre, c'était pas cool.
C'est un peu compliqué. C'est ta scène qui restera.
C'est ça. Mais du coup, non, ils ont été, je dirais, concentrés et efficaces. Et surtout, ils ont fait quelque chose qui me semble essentiel, c'est qu'ils ont jamais lâché ce qu'ils avaient dans la tête, quoi. Leur envie de départ. Pourquoi ils faisaient ce film? Qu'est-ce qu'ils avaient envie de dire? Et dès que moi j'oubliais, parce que parfois on peut, même en 6 semaines, oublier son personnage, oublier le sujet, se mettre en mode automatique, ne plus savoir ce qu'on défend, ils me rappelaient toujours de quoi on parlait.
Andranik Manet, tu le citais justement, il joue ton partenaire à l'écran. Est-ce qu'il y a eu des scènes particulières avec lui qui ont été compliquées? Comment ça s'est passé?
Oui, Andranik Manet, ça n'a jamais été compliqué avec lui, parce que c'est un immense acteur qui s'adapte, qui est extrêmement doux, comme le disait Béatrice. Ça a été compliqué plus pour lui que moi avec lui, parce que pour lui de savoir qu'il devait me maltraiter un petit peu, ça le chagrinait beaucoup, ça l'angoissait pas mal. Donc j'étais sans arrêt en train de lui dire mais vas-y, n'aie pas peur. Bon, j'ai adoré le off, et j'ai adoré qu'il soit si délicat avec moi, et c'était formidable de partager ces scènes-là, parce que c'est comme jouer des scènes de films d'horreur, ou de, vous savez, des choses où les corps qui brûlent, des espèces de trucs qui sont vraiment du cinéma, quoi, qui sont pour de faux. Et là, il fallait fabriquer ce très vrai avec que du faux. Il fallait fabriquer une violence avec que la douceur inhérente à qui il est dans la vie, quoi, Andranik. Donc c'était vraiment du cinéma à cet endroit-là.
Eh ben, en tout cas, voilà. Moi, je vous conseille d'aller voir Vacances au cinéma. Vous allez voir, vous avez passé un bon moment avec cette histoire, voilà, qui va vous emmener. On peut tomber toujours un jour sur une personne malveillante, et ce film, on est aussi un petit peu l'image, voilà, qu'on peut retenir aussi. Merci beaucoup, Béatrice. Merci, Léo, et puis merci, Géraldine, une nouvelle fois. On se dit à très vite.
À très vite, avec plaisir, Alain.
À très vite.
Merci beaucoup.
Maman, c'est sûr, hier, il t'a dit qu'il venait, papa.
Oui, il te fait plein de bisous.
Bisous. Vous êtes bien chez la famille Gauthier. Alors laissez-nous un message et on vous rappellera.
Marcel, j'en ai marre, tu m'évites. Puis si je suis seule, s'il te plaît.
Marie?
Quoi?
Vous êtes perdue? Je peux vous conduire si vous voulez.
Ah ouais, bonjour l'ambiance, quoi.
Ils habitent un vrai taudis.
Et toutes les nuits, le fils, il est sur sa barque, cherche sûrement son père qui s'est noyé.
Ça doit être le fils à Jeanne. Martin, un grand gars. Vous vous rappelez pas? C'est parce que vous n'êtes pas venu souvent.
Vous cherchez quelque chose? Vous n'avez pas vu mon fils?
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, une large page sera consacrée à Miskina la pauvre, la nouvelle production française Amazon Prime avec Mel Rabedia, et plein de beaux mondes qui seront nos invités exceptionnels pour en parler. On aura l'occasion de parler du film Boomerang également, qui sera diffusé sur France 2 avec Christian François, Bruno Salomon et Laurent Bateau. On parlera également de La Maison d'en Face avec le grand final. Katerina Murino et Marc Ruchman seront nos invités également. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Le rendez-vous des stars, C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.